Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, 11e partie, dialogue 24 et 25.
Il ne me reste plus maintenant qu'à vous indiquer certaines particularités de ma manière d'agir, certaines habitudes de conduite qui donneront à mon gouvernement sa dernière physionomie. En premier lieu, je veux que mes desseins soient impénétrables, même pour ceux qui m'approcheront le plus près. Je serai sous ce rapport comme Alexandre VI et le duc de Valentinois, dont on disait proverbialement à la cour de Rome, du premier qui ne faisait jamais ce qu'il disait et du second qui ne disait jamais ce qu'il faisait. Je ne communiquerai mes projets que pour en ordonner l'exécution, et je ne donnerai mes ordres qu'au dernier moment. Borgia n'en usait jamais autrement. Ses ministres eux-mêmes ne savaient rien, et l'on était toujours réduit autour de lui à de simples conjectures. J'ai le don de l'immobilité, mon but est là. Je regarde d'un autre côté, et quand il est à ma portée, je me retourne tout d'un coup et je fonds sur ma proie avant qu'elle n'ait eu le temps de jeter un cri. Vous ne sauriez croire quel prestige une telle puissance de dissimulation donne au prince. Quand elle est jointe à la vigueur de l'action, un respect superstitieux l'environne. Ses conseillers se demandent tout bas ce qui sortira de sa tête. Le peuple ne place sa confiance qu'en lui. Il personnifie à ses yeux la providence dont les voies sont inconnues. Quand le peuple le voit passer, il songe avec une terreur involontaire ce qu'il pourrait d'un signe de la nuque. Et les États voisins sont toujours dans la crainte et le comble de marques de déférence, car ils ne savent jamais si quelque entreprise toute prête ne fondra pas sur eux du jour au lendemain.
Vous êtes fort contre votre peuple parce que vous le tenez sous votre genou. Mais si vous trompez les États avec qui vous traitez comme vous trompez vos sujets, vous serez bientôt étouffé dans les bras d'une coalition.
Ah, vous me faites sortir de mon sujet, car je ne m'occupe ici que de ma politique intérieure. Mais si vous voulez savoir des principaux moyens à l'aide desquels je tiendrai en échec la coalition des haines étrangères, le voici. Je règne sur un puissant royaume, je vous l'ai dit, eh bien. Je chercherai autour de mes États quelques grands pays déchus qui aspira à se relever. Je le relèverai tout entier à la faveur de quelques guerres générales, comme cela s'est vu pour la Suède, pour la Prusse, comme cela peut se voir d'un jour à l'autre pour l'Allemagne ou pour l'Italie. Et ce pays, qui ne vivrait que par moi, qui ne serait qu'une émanation de mon existence, me donnerait tant que je serais debout, 300 000 hommes de plus, contre l'Europe armée.
Et le salut de votre État, à côté duquel vous élèveriez ainsi une puissance rivale et par suite ennemie dans un temps donné?
Mais avant tout, je me conserve.
Ainsi, vous n'avez rien, pas même le souci des destinées de votre royaume.
Qui vous dit cela? Pourvoir à mon salut, n'est-ce pas pourvoir en même temps au salut de mon royaume?
Votre physionomie royale se dégage de plus en plus. Je veux la voir tout entière.
Daignez donc alors ne pas m'interrompre. Il s'en faut bien qu'un prince, quelle que soit sa force de tête, trouve toujours en lui les ressources d'esprit nécessaires. Un des plus grands talents de l'homme d'État consiste à s'approprier les conseils qu'il entend autour de lui. On trouve très souvent dans son entourage des avis lumineux. J'assemblerai donc très souvent mon conseil. Je le ferai discuter, débattre devant moi les questions les plus importantes. Quand le souverain se défie de ses impressions, on n'a pas assez de ressources de langage pour déguiser sa véritable pensée. Il doit rester muet ou ne parler que pour engager plus avant la discussion. Il est très rare que, dans un conseil bien composé, le véritable parti à prendre dans telle situation donnée ne se formule pas de manière ou d'autre. On le saisit et très souvent, l'un de ceux qui a donné fort obscurément son avis est tout étonné le lendemain de le voir exécuté. Vous avez pu voir dans mes institutions et dans mes actes quelle attention j'ai toujours mise à créer des apparences. Il en faut dans les paroles comme dans les actes. Le comble de l'habileté est de faire croire à sa franchise quand on a une foi punique. Non seulement mes desseins seront impénétrables, mais mes paroles signifieront presque toujours le contraire de ce qu'elles paraîtront indiquer. Les initiés seuls pourront pénétrer le sens des mots caractéristiques qu'à de certains moments je laisserai tomber du haut du trône. Quand je dirai « Mon règne, c'est la paix », c'est que ce sera la guerre. Et quand je dirai que je fais appel aux moyens moraux, c'est que je vais user des moyens de la force. M'écoutez-vous ?
Oui.
Vous avez vu que ma presse a 100 voix et qu'elle parle incessamment de la grandeur de mon règne, de l'enthousiasme de mes sujets pour leur souverain. Qu'elle mette en même temps dans la bouche du public les opinions, les idées jusqu'aux formules de langage qui doivent défrayer ces entretiens. Vous avez vu également que mes ministres étonnent sans relâche le public des témoignages incontestables de leurs travaux. Quant à moi, je parlerai rarement, une fois l'année seulement, puis ça et là, dans quelques grandes circonstances. Aussi, chacune de mes manifestations serait accueillie non seulement dans mon royaume, mais dans l'Europe entière comme un événement. Un prince dont le pouvoir est fondé sur une base démocratique doit avoir un langage soigné, mais cependant populaire. Au besoin, il ne doit pas craindre de parler en démagogue, car après tout, il est le peuple, et il en doit avoir les passions. Il faut avoir pour lui certaines attentions, certaines flatteries, certaines démonstrations de sensibilité qui trouveront place à l'occasion. Peu importe que ces moyens paraissent infimes ou puérils aux yeux du monde, le peuple n'y regardera pas de si près, et l'effet sera produit. Dans mon ouvrage, je recommande au prince de prendre pour type quelques grands hommes du temps passé, dont il doit autant que possible suivre les traces. Ces assimilations historiques font encore beaucoup d'effet sur les masses. On grandit dans leur imagination, on se donne de son vivant la place que la postérité vous réserve. On trouve d'ailleurs, dans l'histoire de ces grands hommes, des rapprochements, des indications utiles, quelquefois des situations identiques, dont on tire des enseignements précieux, car toutes les grandes leçons politiques sont dans l'histoire. Quand on a trouvé un grand homme avec qui l'on a des analogies, on peut faire mieux encore. Vous savez que les peuples aiment qu'un prince ait l'esprit cultivé, qu'il ait le goût des lettres, qu'il en ait même le talent. Eh bien, le prince ne saurait mieux employer ses loisirs qu'à écrire, par exemple, l'histoire du grand homme des temps passés qu'il a pris pour modèle. Une philosophie sévère peut taxer ces choses de faiblesse. Quand un souverain est fort, on les lui pardonne, et lui donne même je ne sais quelle grâce. Certaines faiblesses et même certains vices servent d'ailleurs le prince autant que des vertus. Vous avez pu reconnaître la vérité de ces observations d'après l'usage que dut faire tantôt de la duplicité et tantôt de la violence. Il ne faut pas croire, par exemple, que le caractère vindicatif du souverain puisse lui nuire, bien au contraire. S'il est souvent opportun d'user de la clémence ou de la magnanimité, il faut qu'à de certains moments, sa colère s'apesantisse d'une manière terrible. L'homme est l'image de Dieu, et la divinité n'a pas moins de rigueur dans ses coups que de miséricorde. Quand j'aurai résolu la perte de mes ennemis, je les écraserai donc jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que poussière. Les hommes ne se vengent que des injures légères. Ils ne peuvent rien contre les grandes. C'est du reste ce que je dis expressément dans mon livre. Le prince n'a que le choix des instruments qui doivent servir à son courroux. Il trouvera toujours des juges prêts à sacrifier leur conscience à ses projets de vengeance ou de haine. Ne craignez pas que le peuple s'émeuble jamais des coups que je porterai. D'abord, il aime à sentir la vigueur du bras qui commande, et puis il hait naturellement ce qui s'élève. Il se réjouit instinctivement quand on frappe au-dessus de lui. Peut-être ne savez-vous pas bien, d'ailleurs, avec quelle facilité on oublie. Quand le moment des rigueurs est passé, c'est à peine si ceux-là même que l'on a frappé s'en souviennent. À Rome, au temps du bas empire, Tacite rapporte que les victimes couraient avec je ne sais quelle jouissance au-devant des supplices. Vous entendez parfaitement qu'il ne s'agit de rien de semblable dans les temps modernes. Les mœurs sont devenues fort douces. Quelques proscriptions, des emprisonnements, la déchéance des droits civiques, ce sont là des châtiments bien légers. Il est vrai que, pour arriver à la souveraine puissance, il a fallu verser du sang et violer bien des droits, mais, je vous le répète, tout s'oublie. La moindre cajolerie du prince, quelques bons procédés de la part de ses ministres ou de ses agents, seront accueillis avec les marques de la plus grande reconnaissance. S'il est indispensable de punir avec une inflexible rigueur, il faut récompenser avec la même ponctualité. C'est ce que je ne manquerai jamais de faire. Quiconque aurait rendu un service à mon gouvernement serait récompensé dès le lendemain. Les places, les distinctions, les plus grandes dignités formeraient autant d'étapes certaines pour quiconque serait en possession de servir utilement ma politique. Dans l'armée, dans la magistrature, dans tous les emplois publics, l'avancement serait calculé sur la nuance de l'opinion et les degrés de zèle à mon gouvernement. Vous êtes muet.
Continuez.
Je reviens sur certains vices et même sur certains travers d'esprit que je regarde comme nécessaires au prince. Le maniement du pouvoir est une chose formidable. Si habile que soit un souverain, si infaillible que soit son coup d'œil et si vigoureuse que soit sa décision, il y a encore un immense aléa dans son existence. Il faut être superstitieux. Gardez-vous de croire que ceci soit de légères conséquences. Il est, dans la vie des princes, des situations si difficiles, des moments si graves que la prudence humaine ne compte plus. Dans ces cas-là, il faut presque jouer au dé de ses résolutions. Le parti que j'indique et que je suivrai consiste, dans certaines conjonctures, à se rattacher à des dates historiques, à consulter des anniversaires heureux, à mettre telle ou telle résolution hardie sous les auspices d'un jour où l'on a gagné une victoire, fait un coup de main heureux. Je dois vous dire que la superstition a un autre avantage très grand. Le peuple connaît cette tendance. Ces combinaisons augurales réussissent souvent. Il faut aussi les employer lorsqu'on en est sûr du succès. Le peuple, qui ne juge que par les résultats, s'habitue à croire que chacun des actes du souverain correspond à des signes célestes et que les coïncidences historiques forcent la main de la fortune.
Le dernier mot est dit. Vous êtes un joueur.
Oui, mais j'ai un bonheur inouï et j'ai la main si sûre, la tête si fertile, que la fortune ne peut pas tourner.
Puisque vous faites votre portrait, vous devez avoir encore d'autres vices ou d'autres vertus à faire passer.
Je vous demande grâce pour la luxure. La passion des femmes sert un souverain bien plus que vous ne pouvez le penser. Henri IV a dû à son incontinence une partie de sa popularité. Les hommes sont ainsi faits, que se penchant leur plaît chez eux qu'ils gouvernent. La dissolution des mœurs a été de tout temps une fureur, une carrière galante dans laquelle le prince doit devancer ses égaux, comme il devance ses soldats devant l'ennemi. Ses idées sont françaises, et je ne pense pas qu'elles déplaisent trop à l'illustre auteur des lettres persanes. Il ne m'est pas permis de tomber dans des considérations trop vulgaires. Cependant, je ne puis me dispenser de vous dire que le résultat le plus réel de la galanterie du prince et de lui conseiller la sympathie de la plus belle moitié de ses sujets.
Vous tournez au madrigal.
Oh, peut-être sérieux et galant, vous en avez fourni la preuve. Je ne rabats rien de ma proposition. L'influence des femmes sur l'esprit public est considérable. En bonne politique, le prince est condamné à faire de la galanterie, alors même qu'au fond, il ne s'en soucierait pas, mais le cas sera rare. Je puis vous assurer que si je suis bien les règles que je viens de tracer, on se souciera fort peu de la liberté dans mon royaume. On aura un souverain vigoureux, dissolu, plein d'esprit de chevalerie, adroit à tous les exercices du corps, on l'aimera. Les gens austères n'y feront rien, on suivra le torrent. Bien plus, les hommes indépendants seront mis à l'index, on s'en écartera. On ne croira ni à leur caractère, ni à leur désintéressement. Ils passeront pour des mécontents qui veulent se faire acheter. Et si ça et là, je n'encourageais pas le talent, On le repousserait de toutes parts, on marcherait sur les consciences comme sur le pavé. Mais au fond, je serais un prince moral. Je ne permettrais pas que l'on aille au-delà de certaines limites. Je respecterai la pudeur publique, partout où je verrai qu'elle veut être respectée. Les souillures ne m'atteindront pas, car je me déchargerai sur d'autres des parties odieuses de l'administration. Ce que l'on pourra dire de pis, c'est que je suis un bon prince, mal entouré, que je le veux bien, que je le veux ardemment, que je le ferai toujours, quand on me l'indiquera. Si vous saviez combien il est facile de gouverner quand on a le pouvoir absolu. Là, point de contradiction, point de résistance. On peut suivre à loisir ses desseins, on a le temps de réparer ses fautes. On peut, sans opposition, faire le bonheur de son peuple, car c'est là ce qui me préoccupe toujours. Je puis vous affirmer que l'on ne s'ennuiera pas dans mon royaume. Les esprits seront sans cesse occupés par mille objets divers. Je donnerai au peuple le spectacle de mes équipages et des pompes de ma cour. On préparera de grandes cérémonies. Je tracerai des jardins, j'offrirai l'hospitalité à des rois. Je ferai venir des ambassades des pays les plus reculés. Tantôt ce seront des bruits de guerre, tantôt des complications diplomatiques sur lesquelles on glosera pendant des mois entiers. J'irai bien loin, je donnerai satisfaction même à la monomanie de la liberté. Les guerres qui se feront sous mon règne seront entreprises au nom de la liberté des peuples et de l'indépendance des nations. Et pendant que, sur mon passage, les peuples m'acclameront, je dirai secrètement à l'oreille des rois absolus, « Ne craignez rien, je suis des vôtres, je porte comme vous une couronne et je tiens à la conserver. J'embrasse la liberté européenne, mais c'est pour l'étouffer. » Une seule chose pourrait peut-être à un moment compromettre ma fortune. Ce serait le jour où l'on reconnaîtra de tous côtés que ma politique n'est pas franche, que tous mes actes sont marqués au coin du calcul.
Quels seront donc les aveugles qui ne verront pas cela?
Mon peuple tout entier, sauf quelques coteries dont je me soucierai peu. J'ai d'ailleurs formé autour de moi une école d'hommes politiques d'une très grande force relative. Vous ne sauriez croire à quel point le machiavélisme est contagieux et combien ses préceptes sont faciles à suivre. Dans toutes les branches du gouvernement, il y aura des hommes de rien ou de très peu de conséquences qui seront de véritables Machiavel aux petits pieds, qui ruseront, qui dissimuleront, qui mentiront avec un imperturbable sang-froid. La vérité ne pourra se faire jour nulle part.
Si vous n'avez fait que railler d'un bout à l'autre de cet entretien, comme je le crois, Machiavel, je regarde cette ironie comme votre plus magnifique ouvrage.
Une ironie? Vous vous trompez bien si vous le pensez. Ne comprenez-vous pas que j'ai parlé sans voile et que c'est la violence terrible de la vérité qui donne à mes paroles la couleur que vous croyez voir?
Vous avez achevé?
Pas encore.
Achevez donc.
Je régnerai 10 ans dans ces conditions, sans changer quoi que ce soit ma législation. Le succès définitif n'est qu'à ce prix. Rien, absolument rien, ne doit me faire varier pendant cet intervalle. Le couvercle de la chaudière doit être de fer et de plomb. C'est pendant ce temps que s'élabore le phénomène de destruction de l'esprit factieux. Vous croyez peut-être qu'on est malheureux, qu'on se plaint. Ah, je serais inexcusable s'il en était ainsi. Mais quand les ressorts seront le plus violemment tendus, quand je pèserai du poids le plus terrible sur la poitrine de mon peuple, voici ce qu'on dira. Nous n'avons que ce que nous méritons, souffrons.
Vous êtes bien aveugle si vous prenez cela pour une apologie de votre règne. Si vous ne comprenez pas que l'expression de ces paroles est un regret violent du passé. C'est là un mot stoïque qui vous annonce le jour du châtiment.
Vous me troublez. L'heure est venue de détendre les ressorts. Je vais rendre des libertés.
Mieux vaut 1000 fois l'excès de votre oppression. Votre peuple vous répondra, gardez ce que vous avez pris.
Ah, que je reconnais bien là la haine implacable des partis. N'accordez rien à ses adversaires politiques, rien, pas même les bienfaits.
Non, Machiavel, rien avec vous, rien. La victime immolée ne reçoit pas de bienfaits de son bourreau.
Ah, que je pénétrerai aisément à cet égard la pensée secrète de mes ennemis. Ils se flattent, ils espèrent que la force d'expansion que je comprime me lancera tôt ou tard dans l'espace. Les insensés, ils ne me connaîtront bien qu'à la fin. En politique, que faut-il pour prévenir tout danger avec la plus grande compression possible? Une imperceptible ouverture, on l'aura. Je ne rendrai pas de liberté considérable à coup sûr. Eh bien, voyez pourtant à quel point l'absolutisme aura déjà pénétré dans les mœurs. Je puis gager qu'au premier bruit de sa liberté, il s'élèvera autour de moi des rumeurs d'épouvante. Mes ministres, mes conseillers s'écrieront que j'abandonne le gouvernail, que tout est perdu. On me conjurera, au nom du salut de l'État, au nom du pays, de ne rien faire. Le peuple dira, mais à quoi songe-t-il? Son génie baisse? Les indifférents diront, oh, le voilà à bout. Les haineux diront, il est mort.
Et ils auront tous raison, car un publiciste moderne a dit, avec une grande vérité, veut-on ravir aux hommes leurs droits? Il ne faut rien faire à demi. Ce qu'on leur laisse leur sert à reconquérir ce qu'on leur enlève. La main qui reste libre dégage l'autre de ses fers.
C'est très bien pensé, c'est très vrai. Je sais que je m'expose beaucoup. Vous voyez bien que l'on est injuste envers moi, que j'aime plus la liberté qu'on ne le dit. Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'avais de l'abnégation, si je saurais me sacrifier pour mes peuples, descendre du trône au besoin. Vous avez maintenant ma réponse. J'en puis descendre par le martyre.
Vous êtes bien attendri. Quelle liberté rendez-vous?
Je permets à ma chambre législative de me témoigner chaque année, au moment du jour de l'an, l'expression de ses vœux dans une adresse.
Mais puisque l'immense majorité de la chambre vous est dévouée, que pouvez-vous recueillir sinon des remerciements et des témoignages d'admiration et d'amour?
Eh bien oui, ces témoignages ne sont-ils pas naturels?
Sont-ce toutes les libertés?
Mais cette première concession est considérable, quoi que vous en disiez. Je m'en tiendrai cependant pas là. Il s'opère aujourd'hui en Europe un certain mouvement d'esprit contre la centralisation, non pas chez les masses, mais dans les classes éclairées. Je décentraliserai, c'est-à-dire que je donnerai à mes gouverneurs de province le droit de trancher beaucoup de petites questions locales soumises auparavant à l'approbation de mes ministres.
Vous ne faites que rendre la tyrannie plus insupportable si l'élément municipal n'est pour rien dans cette réforme.
Voilà bien la précipitation fatale de ceux qui réclament des réformes. Il faut marcher à pas prudents dans la voie de la liberté. Je ne m'en tiens cependant pas là. Je donne des libertés commerciales.
Vous en avez déjà parlé.
Mais c'est que le point industriel me touche toujours. Je ne veux pas qu'on dise que ma législation va, par un excès de défiance envers le peuple, jusqu'à l'empêcher de pourvoir lui-même à sa subsistance. C'est pour cette raison que je me fais présenter aux chambres des lois qui ont pour objet de déroger un peu aux dispositions prohibitives de l'association. Du reste, la tolérance de mon gouvernement rendait cette mesure parfaitement inutile. Et comme, en fin de compte, il ne faut pas se désarmer, rien ne sera changé à la loi, si ce n'est la formule de la rédaction. On a aujourd'hui dans les chambres des députés qui se prêtent très bien à ces innocents stratagèmes.
Est-ce tout?
Oui, car c'est beaucoup trop, peut-être. Mais je crois pouvoir me rassurer. Mon armée est enthousiaste, ma magistrature fidèle, et ma législation pénale fonctionne avec la régularité et la précision de ces mécanismes tout-puissants et terribles que la science moderne a inventés.
Ainsi, vous ne touchez pas aux lois de la presse.
Vous ne le voudriez pas.
Ni à la législation municipale?
Est-ce possible?
Ni à votre système de protectorat du suffrage?
Non.
Ni à l'organisation du Sénat, ni à celle du corps législatif, ni à votre système intérieur, ni à votre système extérieur, ni à votre régime économique, ni à votre régime financier ?
Mais je ne touche qu'à ce que je vous ai dit. À proprement parler, je sors de la période de la terreur, j'entre dans la voie de la tolérance. Je ne puis sans danger, et je pourrais même rendre des libertés réelles, car il faudra être bien dénué d'esprit politique pour ne pas reconnaître qu'à leur imaginaire que je suppose, ma législation a porté tous ses fruits. J'ai rempli le but que je vous avais annoncé. Le caractère de la nation est changé, et les légères facultés que j'ai rendues ont été pour moi la sonde avec laquelle j'ai mesuré la profondeur du résultat. Tout est fait, tout est consommé. Il n'y a plus de résistance possible. Il n'y a plus d'écueil, il n'y a plus rien. Et cependant, je ne rendrai rien. Vous l'avez dit, c'est là que la vérité pratique.
Hâtez-vous de terminer, Machiavel. Puisse mon ombre ne vous rencontrer jamais, et que Dieu efface de ma mémoire jusqu'à la dernière trace de ce que je viens d'entendre.
Prenez garde, Montesquieu. Avant que la minute qui commence ne tombe dans l'éternité, vous chercherez mes pas avec angoisse, et le souvenir de cet entretien désolera éternellement votre âme.
Parlez.
Revenons donc. J'ai fait tout ce que vous savez, par ces concessions à l'esprit libéral de mon temps, j'ai désarmé la haine des partis.
Ah, vous ne laisserez donc pas tomber ce masque d'hypocrisie dont vous avez couvert des forfaits qu'aucune langue humaine n'a décrit. Vous voulez donc que je sorte de la nuit éternelle pour vous flétrir? Ah, Machiavel, vous-même n'aviez pas enseigné à dégrader à ce point l'humanité. Vous ne conspiriez pas contre la conscience. Vous n'aviez pas conçu la pensée de faire de l'âme humaine une boue dans laquelle le divin créateur lui-même ne reconnaîtrait plus rien.
Mais c'est vrai, je suis dépassé.
Fuyez, ne prolongez pas un instant de plus cet entretien.
Avant que les ombres qui s'avancent en tumulte là-bas n'aient atteint ce noir ravin qui les sépare de nous, j'aurai fini. Avant qu'elles ne l'aient atteint, vous ne me reverrez plus, et vous m'appellerez en vain.
Achevez donc. Ce sera l'expiation de la témérité que j'ai commise en acceptant cette gageure sacrilège.
Ah, liberté ! Voilà donc avec quelle force tu tiens dans quelques âmes quand le peuple te méprise ou se console de toi par des hochets. Laissez-moi vous conter à ce sujet une bien courte apologue. Dieu raconte que le peuple romain était indigné contre Auguste à cause de certaines lois trop dures qu'il avait faites, mais que sitôt qu'il eut fait revenir le comédien Pylade, que les factieux avaient chassé de la ville, le mécontentement cessa. Voilà mon apologue. Maintenant voici la conclusion de l'auteur, car c'est un auteur que je cite. Un pareil peuple sentait plus vivement la tyrannie lorsque l'on chassait un baladin que lorsqu'on lui enlevait toutes ses lois. Savez-vous qui a écrit cela ?
Peu m'importe.
Reconnaissez-vous donc, c'est vous-même? Je ne vois que les âmes basses autour de moi, qui puis-je faire? Les baladins ne manqueront pas sous mon règne. Il faudra qu'ils se conduisent bien mal pour que je prenne le parti de les chasser.
Je ne sais si vous avez exactement rapporté mes paroles, mais voici une citation que je puis vous garantir. Elle vengera éternellement les peuples que vous calomniez. Les mœurs du prince contribuent autant à la liberté que les lois. Il peut, comme elle, faire des hommes des bêtes, et des bêtes des hommes. S'il aime les âmes libres, il aura des sujets. S'il aime les âmes basses, il aura des esclaves. Voilà ma réponse. Et si j'avais aujourd'hui à ajouter quelque chose à cette citation, je dirais: quand l'honnêteté publique est bannie du sein des cours, quand la corruption s'étale là sans pudeur, elle ne pénètre pourtant jamais que dans le cœur de ceux qui approchent un mauvais prince. L'amour de la vertu continue à vivre dans le sein du peuple, et la puissance de ce prince est si grande que le mauvais prince n'a qu'à disparaître pour que, par la force même des choses, l'honnêteté revienne dans la pratique du gouvernement en même temps que la liberté.
Cela est très bien écrit, dans une forme très simple. Il n'y a qu'un malheur à ce que vous venez de dire. C'est que dans l'esprit comme dans l'âme de mes peuples, je personnifie, moi, la vertu. Bien mieux, je personnifie la liberté, Entendez-vous comme je personnifie la révolution, le progrès, l'esprit moderne, tout ce qu'il y a de meilleur, enfin, dans le fond de la civilisation contemporaine. Je ne dis pas qu'on respecte, je ne dis pas qu'on m'aime, je dis qu'on me vénère, je dis que le peuple m'adore, et que, si je le voulais, je me ferais lever les autels, car expliquez-vous, j'ai les dons fatals qui agissent sur les masses. Dans notre pays, on guillotinait Louis XVI, qui ne voulait que le bien du peuple, qui le voulait avec toute la foi, toute l'ardeur d'une âme sincèrement honnête. Et quelques années auparavant, on avait élevé des autels à Louis XIV, qui se souciait peu du peuple, plus que de la dernière de ses maîtresses, qui au moindre coup de tête eût fait mitrailler la canaille en jouant au dé avec Lauzun. Mais je suis, moi, bien plus que Louis XIV. Avec le suffrage populaire qui me sert de base. Je suis Washington, je suis Henri IV, je suis Saint-Louis, Charles le Sage. Je prends vos meilleurs rois pour vous faire honneur. Je suis un roi d'Égypte et d'Asie en même temps. Je suis Pharaon, je suis Cyrus, je suis Alexandre, je suis Sardanapale. L'âme du peuple s'épanouit quand je passe. Il court avec ivresse sur mes pas. Je suis un objet d'idolâtrie. Le père me montre du doigt son fils, la mère invoque mon nom dans ses prières. La jeune fille me regarde en soupirant, et songe que si mon regard tombait sur elle par hasard, elle pourrait peut-être reposer un instant sur ma couche. Quand le malheureux est opprimé, il dit, si le roi le savait, quand on veut se venger et qu'on espère au secours, on dit, le roi le saura. On ne m'approche jamais, du reste, que l'on ne me trouve les mains pleines d'or. Ceux qui m'entourent, il est vrai, sont durs, violents, ils méritent parfois le bâton. Mais il faut qu'il en soit ainsi, car leur caractère haïssable, méprisable, leur basse cupidité, leur débordement, leur gaspillage honteux, leur avarice crasse, font contraste avec la douceur de mon caractère, mes allures simples, ma générosité inépuisable. On m'invoque, vous dis-je, comme un dieu. Dans la grêle, dans la disette, dans les incendies, j'accours, la population se jette à mes pieds, elle m'emporterait au ciel dans ses bras, si Dieu lui donnait des ailes.
Ce qui ne vous empêcherait pas de la broyer avec de la mitraille au moindre signe de résistance.
C'est vrai, mais l'amour n'existe pas sans la crainte.
Ce songe affreux est-il fini?
Un songe, ah, Montesquieu. Vous allez pleurer longtemps, déchirez l'esprit des lois, demandez à Dieu de vous donner l'oubli pour votre part dans le ciel, car voici venir la vérité terrible dont vous avez déjà le pressentiment. Il n'y a pas de songe dans ce que je viens de vous dire.
Qu'allez-vous m'apprendre?
Ce que je viens de vous décrire. Cet ensemble de choses monstrueuses devant lesquelles l'esprit recule épouvanté, cette œuvre que l'enfer même pouvait seul accomplir. Tout cela est fait, tout cela existe, tout cela prospère à la face du soleil, à l'heure qu'il est, sur un point de ce globe que nous avons quitté.
Où?
Oh non, ce serait vous infliger une seconde mort.
Ah, parlez au nom du ciel!
Eh bien...
Quoi?
L'heure est passée. Ne voyez-vous pas que le tourbillon m'emporte?
Machiavel!
Voyez ces ombres qui passent loin de vous en se couvant les yeux. Les reconnaissez-vous? Ce sont les gloires qui ont fait l'envie du monde entier. À l'heure qu'il est, elles redemandent à Dieu leur patrie.
Dieu éternel, qu'avez-vous permis?